Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. L'inconvénient, sélection du Reader's Digest et la conversation. Au programme, suite de l'idée d'être écrivain, elle joue du violon sur la table d'opération et l'architecture doit s'ouvrir à la nature. Bonne écoute.
Vous écoutez « L'idée d'être écrivain », réflexion sur les carnets d'André Major, un texte de Thomas Haut-Saint-Pierre, paru à l'été 2022 dans le numéro 89 de la revue L'Inconvénient. L'impossible invention. Il y a un autre aspect important qui m'a habité pendant la lecture des carnets, qui découle du fait que ceux-ci nous donnent en quelque sorte accès à la vie intérieure de Major. On me dira que c'est le cas de n'importe quel livre, et ce n'est pas faux, mais il n'en reste pas moins qu'un carnet, même s'il n'est pas non plus un journal intime, nous ouvre un chemin plus direct vers les réflexions et le quotidien de son auteur, même si tout livre, même le plus impudique, comporte une part de mise en scène. Ainsi, nous n'avons pas accès de manière absolue à la psyché de Major, mais disons qu'on arrive à lire dans ses carnets son empreinte intellectuelle, ce qui compte pour lui au plan philosophique et artistique. Par comparaison, ce dévoilement nous permet de bien peser, dans ses livres de fiction, quel est le jeu de l'imagination, ou plutôt de l'invention. J'ai le souvenir d'avoir lu quelque part cette affirmation de Sartre. Je ne sais pas inventer. Les quelques fois où j'ai pensé à cette phrase, peut-être apocryphe, je me suis dit « moi non plus ». Et c'est une question de praticien que je me pose souvent en lisant un auteur que je connais bien. Sait-il inventer? Je me demande toujours si les autres écrivains font comme moi, s'ils remplissent les crevasses que créent dans la trame narrative de leurs livres leur ignorance et leur déficit d'expérience en utilisant ce qu'ils trouvent, des clichés, la fiction des autres qui s'est déposée comme des alluvions dans le fond de leur esprit, des artifices de seconde main. Un peu comme on est condamné, pour inventer un animal imaginaire, à agencer les caractéristiques des animaux qu'on connaît. Le corps de l'un, la tête d'un autre, des ailes improbables et des aptitudes incohérentes. Cet art du recyclage du connu, est-ce que c'est de l'invention? Est-ce que c'est de la création? En lisant sous cet angle les œuvres de fiction les plus récentes de Major, L'hiver au cœur, paru en 1987, La vie provisoire, paru en 1995, et À quoi ça rime, paru en 2013, on constate qu'avec un peu de maquillage littéraire, on pourrait y insérer des passages des carnets de l'auteur sans véritablement en déranger la trame. D'ailleurs, le narrateur du premier évoque un projet personnel, celui d'écrire une forme de journal inspiré des petits riens qui sont le tout de l'existence. Oui, un journal d'où tout souci de cohérence serait exclu, tout souci de composition, tout souci de séduire. Dans le dernier, le même narrateur, Antoine, qui a comme son auteur pris 25 ans entre les deux livres, affirme: mon rêve de faire une œuvre était sans doute démesuré, exigeant que je mène une vie imaginaire parallèlement à une vie à peu près normale. L'une m'apparaissant comme un exil quand je vivais dans l'autre, jusqu'à ce que j'en vienne à m'en tenir aux seules obligations familiales et professionnelles. S'il est clair que ces deux Antoine, amoureux du Nugget et père d'un Sacha, ne sont qu'un seul et même personnage, on ne peut s'empêcher de se demander si c'est aussi le cas de l'Antoine du Cabochon, écrit 25 ans avant L'hiver au cœur. Dans ses carnets, lorsqu'il apprend que son premier petit-fils va s'appeler Antoine, Major ne mentionne un lien qu'avec le Cabochon. Vous écoutez « L'idée d'être écrivain », réflexion sur les carnets d'André Major, un texte de Thomas Haut-Saint-Pierre, paru à l'été 2022 dans le numéro 89 de la revue L'Inconvénient. Entre ces trois livres, on change bien sûr d'époque, mais on retrouve au fond le même personnage, le même décor, la dualité entre la vie urbaine, qui rappelle la pauvreté matérielle et intellectuelle de l'enfance, et la campagne laurentienne qui permet une libération sensorielle et une certaine unité formelle. Ce qui change, c'est la quête du personnage. Le premier Antoine, celui du cabochon, veut devenir quelqu'un et s'affranchir de la tutelle familiale. Le deuxième tente de donner un sens à sa vie professionnelle et amoureuse. Le dernier, bouleversé comme major par la mort de son oncle préféré, se demande quoi faire des années qui lui restent à vivre et finit par se laisser appeler par une vie d'ermite dans les bois. Lorsqu'on constate cette proximité entre la vie de l'auteur et certaines de ses œuvres, comment ne pas conclure que là où Major a le plus brillé, peut-être pas comme écrivain, mais en tout cas comme romancier, comme créateur de fiction, c'est dans sa trilogie « Histoire de déserteur ». Il y déploie une galerie impressionnante de personnages aux registres langagiers et émotionnels très différents, dans une trame réussie de romans policiers aux assises psychologiques crédibles. Cette histoire se déploie avec beaucoup de souffle sur près de 500 pages, dans lesquelles la narration passe d'une intériorité à l'autre toujours avec fluidité, souvent avec ingéniosité. Si bien qu'il faut parler d'une véritable fresque romanesque. Cette ambition, ce souffle, ce brio tant narratif, je parle de la complexité et de la richesse de l'intrigue, que formel, je parle de la complexité et de la richesse de la narration elle-même, je ne les vois nulle part dans le reste de l'œuvre de Major. Ce n'est sans doute pas par hasard si les livres qui démontrent la plus grande liberté formelle parmi son œuvre sont ceux où il semble s'être le plus éloigné de lui-même. À ce sujet, en novembre 1976, l'auteur note ceci dans ses carnets. Terminé, Les Rescapés, troisième et sans doute dernier volet de mes histoires de déserteur, où je me sentais d'autant plus à l'aise que je pouvais circuler librement, je veux dire d'un lieu à l'autre et d'un ensemble de personnages à l'autre, en jouant avec le ton aussi bien qu'avec l'éclairage du récit. Cette marge de manœuvre, cette errance de la narration où l'esprit d'aventure trouve un lieu d'épanouissement, j'aurais du mal à y renoncer à l'avenir. Nous qui avons le privilège de lire ces lignes 45 ans plus tard, nous savons que cette liberté créatrice ne reviendra pas vraiment dans son œuvre. Peut-être sous l'influence de ses carnets, Major au contraire s'éloignera à la fois de toute fantaisie formelle, mais aussi de tout esprit d'aventure. Il préférera une langue épurée qui laisse toute la place aux mots justes et écarte toute fantaisie. De même, il se recentrera sur les thèmes qui sont au cœur des carnets, le rapport à la littérature, la nature, l'imperfection des relations humaines. En se rapprochant de lui-même, en s'exilant jusqu'à s'emmurer dans son esprit et dans ses idées fixes, il s'éloignera d'un lieu d'épanouissement pour son esprit d'aventure, pour le meilleur et pour le pire. Mais bien sûr, cette préférence que j'exprime pour trois romans par rapport aux autres, qui sont pourtant remarquables sous divers aspects, est facilement démontable, comme toutes les autres. Car, en effet, en ce qui concerne l'art du roman, il n'est pas dit que l'imagination soit véritablement le critère primordial. Et surtout, si moi-même je ne ressentais pas la frustration, comme romancier, de ne pas arriver à inventer comme je le veux, est-ce que je valoriserais autant cette capacité chez les autres? Paradoxalement, j'ai toujours beaucoup aimé les romans qui mettent en scène des personnages d'écrivains, des romans où il ne se passe pas grand-chose. Mais il faut aussi dire que je n'ai pas eu le choix de choisir ma perspective. Je suis entré dans l'œuvre de Major par ses carnets. Il ne fait pas de doute que ce truchement teinte ma lecture de celle de ses œuvres, où le narrateur semble très près de l'auteur. Si je ne connaissais rien d'André Major, l'écrivain, Est-ce que je trouverais les histoires de déserteurs supérieurs sur le plan littéraire? Ou est-ce que, au contraire, je tomberais amoureux des personnages de ces écrits plus autobiographiques aussi naturellement que je suis tombé amoureux du narrateur, si on peut s'exprimer ainsi, Descarnets, qui semble essentiellement le même être? Impossible de le savoir, on ne découvre un auteur qu'une seule fois et on ne peut pas revenir sur ses pas. Cela dit, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'un créateur a plus de mérite quand il arrive à s'extirper de son histoire personnelle et, par conséquent, de celle que ses livres semblent toujours reconduire. Dans le cas de Major, cette histoire, c'est celle d'un narrateur-écrivain un peu à l'écart, littéraire sans être universitaire, qui passe de Montréal aux Laurentides, qui cite souvent 4 ou 5 grands écrivains et alterne entre 3 ou 4 expédients, la littérature, la nature, les femmes, pour se détourner d'un mal-être rationnel qui n'empêche pas son corps de vivre sans douleur et même avec plaisir, un quotidien qui ne lui déplaît peut-être pas autant que sa tête le prétend. Cette histoire, elle mérite autant d'être racontée que n'importe quelle autre. Mais je pense qu'en poussant cette réflexion, je reviens là où j'ai commencé ce texte. Cette difficulté à créer et à inventer n'est-elle pas la cause même de la fatigue de l'écrivain, qui est épuisé de devoir recourir à des détours imaginaires pour exprimer ce qui le taraude? Il décide alors d'aller droit au but, mais est peut-être déçu de constater que ce que les autres aimaient de ses livres, c'était précisément les détours imaginaires et non l'expérience qui les a fait naître et dont leur existence dépendait. C'est tellement difficile et épuisant écrire un roman, alors qu'il est si naturel d'écrire chaque jour quelques petits paragraphes sur des choses qui nous trottent déjà dans la tête. J'espère qu'on me pardonnera cette comparaison peut-être excessive. L'écrivain fatigué est comme un vieux beau. Il a encore envie de plaire, mais il n'a plus l'énergie pour faire les efforts et jouer le jeu de la séduction. Ainsi, il me semble que les carnets d'André Major ne rendent pas compte, comme l'auteur le prétend, d'un combat contre le silence. Ils rapportent plutôt un combat pour le silence, pour la paix d'esprit et le détachement. Il s'agit en fait d'un combat contre l'idée même du combat, un combat éreintant, peut-être impossible, par ailleurs ponctuellement perdu et toujours recommencé, contre la tentation de continuer à exister comme écrivain. N'oublie pas ce qui est beau, André. En entendant récemment une entrevue que l'auteur a donnée en 2020, j'ai été surpris de lui découvrir une voix de vieil homme portant les traces d'un accent d'une autre époque. Il est vrai qu'André Major avait alors presque 80 ans. Et je le savais, bien entendu, puisque je savais qu'il était né en 1942 et que je sais soustraire. Seulement, je venais de le quitter une semaine ou deux auparavant, dans un carnet écrit en 2007, et alors il avait plutôt l'âge de mon père, qui, accessoirement, a le même prénom que lui, et une vie qui ressemble à la sienne, celle d'un retraité ébahi par ses jeunes petits-enfants. Il appartenait à mon monde. Pour pasticher Leonard Cohen, on pourrait dire que j'avais l'impression qu'en tendant la main devant moi, j'aurais pu toucher la sienne. Mais cette impression était fausse, bien sûr. À la fin de « Prendre le large » qui couvre les années 2004-2007, mais a été publié en 2020, Major sous-entend qu'il ne publiera peut-être pas la suite de ses carnets. À son âge, peut-être a-t-il l'intuition qu'il ne rattrapera pas ses carnets, qu'il faut bien arrêter un jour. Qui pourrait le lui reprocher? Pas moi. En tant que lecteur, je me sens comme quelqu'un qui vient de passer une période intense avec un bon ami qu'il ne voit pas souvent et à qui, au moment de partir, il intime l'ordre de prendre soin de lui. À bientôt, André. J'espère. C'était... L'idée d'être écrivain. Réflexion sur les carnets d'André Major. Un texte de Thomas Haut-Saint-Pierre, paru à l'été 2022 dans le numéro 89 de la revue L'Inconvénient. Elle joue du violon sur la table d'opération. Un texte de Rebecca Phelps, paru le 2 février 2021 dans le magazine Sélection du Reader Digest. Oui, vous avez bien lu. Afin de se débarrasser d'une tumeur cérébrale, une musicienne a dû jouer pendant l'intervention chirurgicale. À l'automne 2019, la violoniste Dagmar Turner a appris qu'une tumeur cérébrale, traitée 6 ans auparavant, avait recommencé à grossir, non loin du nerf du cerveau régissant sa main gauche. C'est le professeur Kayumars Ashkan, spécialiste des tumeurs cérébrales de l'hôpital King's College de Londres, qui a procédé à l'intervention. Son plan? Réveiller la musicienne au cours de l'opération et lui demander de jouer du violon pour s'assurer que l'équipe n'endommage aucun tissu essentiel. Dagmar Turner est restée éveillée pendant environ 2 heures et demie, au cours desquelles elle a joué des gammes, Besame Mucho et Summertime. L'opération a été un succès. C'était « Elle joue du violon sur la table d'opération ». Un texte de Rebecca Phelps, le 2 février 2021, dans le magazine Sélection du Reader Digest.
L'architecture doit s'ouvrir à la nature. Un texte de Jean-Paul Boudreau, paru le 8 décembre 2020 dans le magazine La Conversation. La crise du climat qui est la nôtre, c'est aussi une crise plus discrète, plus fondamentale, une crise de nos relations au vivant et de la sensibilité qui pourrait nous mener vers la 6e extinction des espèces. Force est de reconnaître qu'il faut une transformation de nos manières de vivre et d'habiter ce monde. Comme l'écrit le philosophe français Michel Serres en 1990 dans son essai « Le contrat naturel », elle est loin l'époque où la population de la planète était composée essentiellement de paysans ou de pêcheurs dont l'emploi du temps dépendait de l'état du ciel et des saisons. Nos contemporains entassés dans les villes ne se servent plus ni de pelles ni de rames. L'essentiel de leurs activités se passe à l'intérieur, jamais plus à l'extérieur avec les choses. L'appauvrissement de nos sens dans la perception du monde actuel dresse une barrière entre l'humain et son environnement. Paradoxalement, avec les nouvelles normes écologiques, la tendance actuelle veut que, pour des questions purement énergétiques, on se protège encore plus de notre environnement extérieur. Au bout du compte, on s'enferme de plus en plus dans des bâtiments devenus des objets solitaires. Un objet qui est le fruit d'un long processus de déracinement et d'aliénation du monde propre à la modernité capitaliste qui a façonné l'Occident et qui domine maintenant toute la planète. Il devient de plus en plus évident que cette vision du monde nous éloigne de notre humanité et du vivant. Beaucoup de penseurs et d'activistes contemporains portent et encouragent aujourd'hui ce renouement avec la nature et le vivant. Cela est devenu le sens de ma pratique, de mes enseignements et de mes travaux de recherche avec la chaire Fayol Magil Construction de l'Université de Montréal. Le potentiel de dialogue et d'exploration demeure énorme et c'est à travers un atelier collaboratif d'architecture que je tente de l'incarner à travers le développement de nouvelles manières d'habiter le monde et de le construire. L'Anthropocène. Cette idéologie du progrès et de la croissance nous a aussi laissé croire que la technologie résoudrait tous les problèmes. On se rend compte qu'après 5 décennies de progrès et d'expansion économique débridée, le problème n'est plus de savoir comment éviter d'excéder les limites de la planète, mais d'éviter les crises climatiques, environnementales, sociales et aujourd'hui sanitaires. Dès 1988, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, constate que le système Terre se fragilise et que l'humain provoque des changements révolutionnaires dans l'ordre géologique et dans l'ordre social. C'est le début d'une nouvelle ère géologique nouvelle qu'on appelle l'Anthropocène, qui succéderait à l'Holocène. La thèse de l'Anthropocène, considérée comme le moment dans l'histoire où les activités humaines ont une incidence globale significative sur l'écosystème terrestre, se formule d'abord dans les champs de la climatologie et de la stratigraphie. Puis, elle a pénétré massivement les sciences humaines et sociales au cours des années 2000 et s'est ancrée chez les architectes au début des années 2010, notamment grâce aux travaux de l'architecte française Léa Mosconi. En architecture, la thèse de l'Anthropocène peut se lire comme la nécessité de sortir d'une approche strictement énergétique des changements climatiques pour penser une manière de développer un autre rapport au monde, de créer de nouvelles manières d'habiter et de construire notre monde avec toutes les entités vivantes. Aujourd'hui, ce nouveau courant de pensée se déploie sous les termes de nouveau réalisme et s'éloigne du postmoderne et du structuralisme qui ne cherchaient pas à comprendre les causes des faits humains, mais seulement leur signification sociale. De nouveaux champs de liberté. Il pleut, que nous soyons là ou pas. Il fait froid en hiver, que nous le voulions ou pas, a écrit l'architecte suisse Philippe Ramm dans son essai « Coronavirus ou le retour à la normale ». L'histoire qui nous précède, fortement influencée par des questions culturelles, a largement ignoré les raisons climatiques qui ont façonné à travers les siècles la forme des bâtiments et l'organisation des villes. Cette prise de conscience commence à poindre un peu partout dans le monde. L'acte de naissance de cette nouvelle approche serait la parution, en 1997, de l'ouvrage du géographe Jared Diamond de l'inégalité parmi les sociétés, qui place les facteurs environnementaux, climatiques et sanitaires en amont des événements sociaux. Elle est devenue plus que nécessaire aujourd'hui face aux enjeux du réchauffement climatique et de la pandémie de COVID-19. Car que sont ces deux phénomènes, si ce n'est qu'un stupéfiant retour de la force de la nature? Philippe Ramm, qui est un des précurseurs d'une architecture davantage en lien avec le climat et dont le travail a été exposé dans plusieurs grands musées du monde, mentionne que cette catastrophe n'est pas une nouveauté. Elle a été le quotidien des êtres humains depuis la nuit des temps, à l'exception de nos 50 dernières années. Tout comme lui, je ne sais pas exactement comment ce tournant réaliste se traduira dans les autres domaines, mais je sais comment il se traduit déjà en urbanisme et en architecture. Il ouvre de nouveaux champs d'émancipation, de liberté, d'imagination et figure un formidable débouché pour faire face à la crise du climat. Les enseignements du FUDO. Le FUDO, publié en 1935, est l'œuvre majeure du penseur et philosophe japonais Watsuji Tetsuro, 1889-1960. Il nous fait prendre conscience d'un monde qui, à la fois, existe et est vécu dans le même instant. Le terme « fudo », « fudosai », a été traduit en français par « médiance » par le géographe et philosophe Augustin Berque et cherche à montrer que le corps n'est plus entendu comme un objet du monde, mais comme un moyen de communiquer avec lui. L'individu et la réalité du monde sont donc étroitement mêlés et le corps physique est le terrain même où l'expérience, y compris nos rencontres, avec les objets du monde, se produit. La culture japonaise valorise cette relation et ce contact avec la nature. Le plus bel exemple est l'architecture de la maison traditionnelle qui s'ingénie à ne pas couper son intérieur du monde extérieur. Le Fudo, c'est un mode existentiel de l'humanité qui a rapport au territoire et à son milieu. Le milieu n'est pas une nature extérieure à l'humain, mais quelque chose qui est gravé dans notre structure physique et mentale, comme l'écrit Watsuji Tetsuro dans la récente traduction française de « Fudo, le milieu humain », qui porte sur ce qui fonde et tisse concrètement le vécu des sociétés humaines à l'étendue terrestre. Par exemple, l'air ne nous influence pas seulement par sa froideur et par sa chaleur, c'est aussi le réservoir de toutes sortes de forces inconnues. Cependant, nous ne savons pas encore comment celle-ci entre en relation avec notre corps. C'est cela le secret de l'air. Ce que l'on peut dire de l'air peut être dit de l'eau, de la lumière, du sol, de sa faune et de sa flore, des modes de vie, aliments et vêtements, des manières de travailler et de la totalité des différentes productions culturelles. Tout cela forme le tableau des milieux humains. On ne saurait minimiser le potentiel éthique de cette idée qui porte en germe un tout autre monde qui ne serait plus simplement un environnement réduit à un objet exploitable. Coupé de ce qui nous fait sentir, imaginer, penser, quelque chose manque terriblement, ce dont témoigne l'indifférence avec laquelle le ravage de la Terre est toujours globalement accepté. Et cela démontre que ce nouveau tournant ouvre de nouveaux champs d'émancipation, de liberté et d'imagination. La Terre n'est pas seulement une affaire de géologie et d'exploitation, mais un milieu de vie pour des millions d'espèces incluant la nôtre. Le flux d'eau, c'est l'expression créatrice de ce rapport à la Terre, et c'est ce en quoi l'œuvre de l'architecte peut déployer et non pas ravager. Révéler le sens des choses autour de nous, c'est cela même sur lequel nous devons nous attarder. C'était « L'architecture doit s'ouvrir à la nature », un texte de Jean-Paul Boudreau, paru le 8 décembre 2020 dans le magazine « La Conversation ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Luc Mercure à la lecture, Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.